Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 17 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Rosine Monedero.
Nous commençons par les titres.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce matin au Kenya, première étape d'une tournée en Afrique.
En Ouganda, 3 morts et 33 blessés dans 2 attentats-suicides revendiqués par l'organisation djihadiste État islamique.
Au Nigeria, une commission indépendante qualifie de massacre la répression d'octobre 2020 à Lagos, contredisant la version du gouvernement fédéral nigérian.
En République démocratique du Congo, le bilan du naufrage d'une pirogue sur le lac Kivu s'est alourdi. On parle de 22 morts.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco.
Pour l'instant, le journal.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé ce mercredi à Nairobi, au Kenya, où il est arrivé ce matin à l'aube, son premier voyage en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction. Un voyage centré sur la démocratie et le changement climatique, mais les crises en Éthiopie et au Soudan devraient remettre la sécurité au menu. Le point avec Lionel Gahima.
Le chef de la diplomatie américaine a l'ambition de démarquer l'administration Biden de celle de son prédécesseur Donald Trump, qui ne faisait pas mystère de son désintérêt pour l'Afrique. Monsieur Trump fut le seul président en plusieurs décennies à ne pas se rendre sur le continent. Monsieur Blinken visitera jusqu'à samedi 3 pays considérés comme clés dans la stratégie africaine du président Joe Biden. D'abord le Kenya, un des plus anciens alliés de Washington, où la Chine gagne du terrain, puis le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, et enfin le Sénégal, modèle de stabilité démocratique. Sa visite se déroule à moins d'un mois d'un sommet virtuel pour la démocratie organisé par M. Biden. Selon Erwin Massinga, haut fonctionnaire du département d'État, la démarche actuelle met l'accent sur l'objectif de revitalisation des démocraties, ainsi que le changement climatique et le développement durable. Le développement des capacités de production en Afrique des vaccins contre le Covid-19 sera également évoqué, a-t-il dit. Avec cette initiative, M. Biden espère se distinguer de la Chine qui met offensivement en avant ses propres vaccins.
Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué hier le double attentat suicide à Kampala, la capitale ougandaise. Il y a eu au moins 3 morts et 30 blessés. Le point avec Mohamed Humfa.
Dans un communiqué diffusé sur ses chaînes Telegram, le groupe État islamique en Afrique centrale précise que le premier attentat a été mené près du quartier général de la police où un kamikaze a fait exploser une sacoche piégée. 2 autres à moto ont mené le deuxième attentat en faisant exploser 2 sacoches au milieu d'un groupe de policiers près du siège du Parlement. Le 23 octobre, un attentat à la bombe dans un restaurant connu de Kampala avait fait 1 mort et plusieurs blessés. 2 jours plus tard, une attaque suicide a été menée dans un bus près de la capitale, faisant de nombreux blessés. Les autorités ougandaises avaient alors affirmé avoir établi une connexion entre les 2 attentats qu'elles ont attribués aux forces démocratiques alliées. Les ADF sont un groupe rebelle musulman né en Ouganda et qui opère depuis plus de 25 ans en République démocratique du Congo et sont accusés d'avoir tué ou enlevé des milliers de civils.
Au Nigeria, les forces de sécurité ont commis ce qui s'apparente à un massacre en tirant sur des manifestants pacifiques en octobre 2020 à Lagos. C'est ce qu'a conclu une commission indépendante dans un rapport remis lundi au gouverneur de l'État de Lagos et dont le texte a fuité sur les réseaux sociaux. Il contredit la version défendue sans relâche par le gouvernement fédéral, selon laquelle les militaires n'avaient pas tiré sur les manifestants. Parlons même de massacres fantômes.
11 personnes sont mortes, 4 sont toujours portées disparues et présumées mortes et 21 ont été blessées par balles. Pour rappel, un mouvement contre les violences policières baptisé End SARS, en finir avec SARS, du nom d'une unité spéciale de la police accusée depuis des années de rackets, tortures et même de meurtres, avait secoué alors les grandes villes du pays. Le mouvement a pris fin quand l'armée et la police ont ouvert le feu le 20 octobre 2020 au péage de Lekki à Lagos, lieu de rassemblement des contestataires.
En République démocratique du Congo, les eaux du lac Kivu ont rendu hier 9 corps de naufragés d'une pirogue qui avait sombré le 11 novembre, portant à 22 morts et une dizaine de disparus, le bilan de ce nouvel accident de transport lacustre en RDC, a-t-on appris de sources administratives.
Un premier bilan faisait état vendredi dernier de 8 morts et d'une vingtaine de disparus. La pirogue motorisée transportait notamment des commerçants et paysans qui allaient vendre leurs denrées au marché de Nyamubuki. Vieille et surchargée, elle s'était cassée en deux, causant la noyade d'une vingtaine de passagers. Dans ce pays, le Congo, qui compte très peu de routes praticables, les déplacements se font souvent sur les lacs ainsi que sur le fleuve Congo et ses affluents, où les naufrages sont fréquents.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a admis mardi avoir pulvérisé un de ses satellites en orbite par un tir d'essai de missiles, tout en jugeant hypocrites les déclarations de Washington qui l'accuse d'avoir mis en danger l'équipage de la Station spatiale internationale. Le point avec Jean-Roger Billon.
Après une journée de silence, le ministère russe de la Défense a finalement reconnu mardi avoir procédé avec succès à ce tir visant un satellite inactif et en orbite depuis 1982, sans préciser l'arme utilisée. Moscou a aussi dénoncé les accusations hypocrites de Washington quant au danger que représenteraient les débris. Les États-Unis savent pertinemment que ces fragments ne présenteront aucune menace, a-t-il soutenu dans un communiqué. L'incident a relancé les craintes de voir l'espace se transformer en un champ de bataille entre grandes puissances avides d'expérimenter de nouvelles technologies militaires. Selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le champ de débris créé par le tir russe menacera les activités spatiales pour des décennies. Le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a accusé les Américains d'ignorer les propositions de la Russie et de la Chine en vue d'un accord international pour empêcher une course aux armements dans l'espace. Des tirs d'essai contre des satellites n'avaient été effectués jusqu'ici que par 3 nations, les États-Unis, la Chine et l'Inde.
La capitale américaine, Washington DC, l'une des juridictions les plus strictes concernant les mesures anti-COVID-19 aux États-Unis, va lever dès la semaine prochaine l'obligation de porter un masque en intérieur. L'annonce en a été faite mardi par la maire de Washington. Le point avec Abdurrahman Dia.
Muriel Bowser a indiqué qu'à partir de lundi 22 novembre, Washington va lever l'obligation en vigueur de porter un masque en intérieur. Les entreprises privées pourront toutefois continuer à imposer le port du masque et il restera obligatoire dans les transports en commun à l'intérieur des écoles, des garderies, bibliothèques, maisons de retraite ainsi que dans certains bâtiments publics. La capitale fédérale des États-Unis avait mis en place fin juillet l'obligation du port du masque pour les personnes vaccinées et non vaccinées face à une poussée des infections liées au variant Delta. Jusqu'ici, Washington faisait partie des juridictions avec les mesures sanitaires les plus strictes du pays. La levée de l'obligation du port du masque qui intervient à l'approche de l'hiver et avant les fêtes qui mènent souvent à une flambée des cas de contamination. Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies, CDC, indiquent pourtant sur leur site que Washington reste un lieu où la circulation du virus reste substantielle, avec 572 contaminations sur les 7 derniers jours.
Pour sa part, le maire de New York, Bill de Blasio, a promis hier le retour des foules pour la fête du Nouvel An sur la place de Times Square après son annulation en 2020-2021. Mais une preuve de vaccination sera nécessaire pour y accéder.
Le géant pharmaceutique américain Pfizer a accepté de laisser diffuser sa pilule anti-Covid une fois autorisée au-delà des pays riches pour mieux combattre une pandémie qui fait des ravages depuis près de 2 ans. Cet accord de licence volontaire a été annoncé conjointement hier par Pfizer et la communauté des brevets sur les médicaments créés par United. Par ailleurs, Pfizer a annoncé avoir demandé l'autorisation en urgence aux États-Unis de ce traitement pouvant facilement être pris chez soi dans les premiers jours après l'apparition de symptômes en cas d'infection.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement togolais a adopté l'avant-projet de son budget 2022 qui s'élève à 1760 milliards de francs CFA, soit une hausse de 15,7% par rapport à 2021. Il consacre aux secteurs sociaux 493,3 milliards de francs CFA contre 445,1 milliards de francs CFA cette année. La défense et la sécurité reçoivent 9,4% du montant alloué aux ministères et institutions. La Banque africaine de développement a accompagné 1,8 million de personnes dans le secteur agricole au Niger, notamment les projets intégrés combinant la construction d'infrastructures d'irrigation pour près de 900 000 femmes et la promotion de nouvelles technologies pour 16 000 agriculteurs. En plus, environ 1 million de Nigériens ont bénéficié d'un accès nouveau ou amélioré à l'eau et à l'assainissement. 3 millions ont bénéficié de meilleurs services de santé et 325 000 d'un meilleur accès à l'électricité. Pour terminer, au Congo-Brazzaville, les infrastructures de transport se sont améliorées grâce aux objectifs du document de stratégie pays 2018-2022 de la BAD. Les routes bitumées, construites ou réhabilitées, ont augmenté de 348 km, dont 316 km qui relient désormais le Congo au Cameroun. Il y a eu aussi 32 km de routes bitumées sur le corridor Congo-Gabon, avec la construction d'un pont de 385 mètres de long sur le Niari et un autre de moindre envergure sur la Louvaku.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. L'Algérie, le Nigeria, la Tunisie et le Cameroun ont pris hier les derniers billets pour les barrages de la zone Afrique des qualifications pour le Mondial 2022. Ils rejoignent ainsi le Mali, l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, le Ghana et la République démocratique du Congo, qui étaient déjà assurés de participer à ces 5 barrages en match aller-retour, dont le tirage au sort aura lieu le 18 décembre à Doha. La grande perdante est la Côte d'Ivoire, dominée 1-0 au Cameroun et qui manquera la Coupe du Monde pour la deuxième édition consécutive, après avoir participé aux 3 précédentes 2006, 2010 et 2014. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a validé sa qualification en faisant match nul 2-2 contre son dauphin dans le groupe A, le Burkina Faso. Même scénario dans le groupe C, où le Nigeria s'est contenté de partager les points 1-1 avec le Cap-Vert, qui devait l'emporter pour avoir la première place au Super Eagles. Enfin, la Tunisie a vite plié l'affaire contre la Zambie 3-1 en marquant 3 buts avant la pause pour s'assurer la première place du groupe B. Au Kenya, le mari de l'athlète Agnès Tirop a été inculpé de son meurtre. Ibrahim Rotich a nié les accusations lorsqu'il a comparu devant le tribunal de grande instance d'Eldoret. Selon l'acte d'accusation, Rotich aurait tué la femme de 25 ans la veille de la découverte de son corps dans sa chambre. Le 13 octobre, en effet, le corps de Tirop a été retrouvé avec des coups de couteau à son domicile à Iten, un centre d'entraînement dans l'ouest du Kenya. Tirop était devenu l'une des étoiles montantes du Kenya, remportant le championnat mondial de cross-country. En 2015, elle a aussi été double médaille mondiale sur 10 000 mètres et quatrième sur 5 000 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo cette année. Son assassinat est survenu à peine un mois après qu'elle a battu le record du monde dans une course de 10 km réservée aux femmes. Basketball, 2 matchs amicaux préparatoires à la prochaine saison NBA auront lieu en octobre 2022 aux Émirats Arabes Unis. C'est ce qu'ont annoncé conjointement la Ligue nord-américaine de basketball et le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi. Ces deux rendez-vous, pour lesquels les dates exactes et les affiches restent à déterminer, marqueront la toute première incursion de la NBA dans le Golfe arabique. Aucun match de pré-saison n'a été joué en dehors de l'Amérique du Nord depuis 2019 en raison de la pandémie de COVID-19. Auparavant, certains ont été organisés en Angleterre, en France, au Mexique, au Japon, en Chine et dernièrement en Inde. Et puisqu'on parle de basketball, on y reste avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
3 matchs hier soir, Utah et Philadelphie toujours sans Joel Embiid, 120 à 85. Et les Clippers et San Antonio, 106 à 92. Golden State Warriors et Brooklyn Nets, 117 à 99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Kenya, les agences de sécurité sont engagées dans une chasse à l'homme pour retrouver trois dangereux suspects condamnés pour terrorisme et qui se sont évadés lundi d'une prison de Nairobi. L'un des fugitifs a été impliqué dans une attaque contre l'université de Garissa en 2015 qui a fait près de 150 morts. De Nairobi, Mohamed Youssouf fait le point. Le récit est de Lionel Gahima.
Les trois hommes se sont évadés de la prison de Kamiti, la plus grande prison de haute sécurité du Kenya. La police a arrêté mardi sept gardiens de cette prison en rapport avec l'évasion. Le porte-parole de la police, Bruno Chioso, a déclaré que les fugitifs sont toujours en cavale et que les gardiens arrêtés aidaient à l'enquête sur la façon dont ces hommes ont pu s'enfuir.
Nous avertissons simplement les gens d'être en alerte, de fournir des informations et qu'ils puissent coopérer avec nous. Maintenant, nous avons commencé des enquêtes pour savoir ce qui s'est exactement passé. Ainsi, à terme, nous pourrons partager avec le public une fois l'enquête terminée.
Les trois condamnés incluent Musharraf Abdallah, qui a été reconnu coupable d'avoir tenté d'attaquer le Parlement en 2012, Joseph Juma Odhiambo, qui a été arrêté en 2019 à la frontière entre le Kenya et la Somalie pour avoir envisagé de rejoindre le groupe Al-Shabaab, et enfin Mohamed Ali Abikar, qui a été reconnu coupable de son rôle dans l'attaque d'Al-Shabaab contre l'université de Garissa en avril 2015. Au moins 148 personnes, la plupart des étudiants, ont été tuées. Les trois hommes étaient gardés avec des criminels plus ordinaires à l'intérieur de la prison de Kamiti, qui, selon l'analyste de la sécurité basée à Nairobi, Richard Tuta, est une pratique dangereuse.
Au moment où vous rassemblez ces militants avec tous les petits voleurs, les pickpockets et tout ça, c'est très facile pour eux d'utiliser les failles qui existent au niveau de la sécurité pour s'échapper. Ce sont des gens qui ont des ressources, ce sont des gens qui sont bien formés et ce sont des gens qui ont de bons réseaux à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Tout ceci crée un environnement propice à leur évasion.
Certains condamnés et terroristes présumés en attente de justice ont été accusés d'avoir radicalisé d'autres prisonniers. Le porte-parole de la police, Chioso, a déclaré que l'évasion a incité la police à revoir le traitement des suspects et des condamnés terroristes.
Nous essayons de voir le travail de très près dans un cadre multi-agence. Nous travaillons en étroite collaboration avec les prisons pour revoir la sécurité de toutes les prisons, y compris les installations de police qui accueillent des criminels.
Le gouvernement offre une récompense de 550 000 shillings pour les informations menant à la capture des fugitifs qui, selon les autorités, sont dangereux. Chioso a également mis en garde le public contre le fait de vouloir se faire justice. En octobre, une foule a tué un homme qui s'est évadé de prison. Masten Wanjala avait avoué avoir tué 10 enfants.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en tournée dans trois pays africains. Au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, il évoquera des questions liées à la démocratie, la sécurité et la coopération économique. Ceci dans un contexte de poussée russe et chinoise sur le continent. Quel est l'état et l'avenir de la coopération entre Washington et le continent africain dans les domaines économiques et sécuritaires? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Cameroun, la Journée internationale de la tolérance a été célébrée ce 16 novembre, une occasion pour appeler les francophones et anglophones du pays à faire plus d'efforts pour vivre ensemble. Des centaines de Camerounais ont manifesté à Yaoundé contre ce qu'ils appellent l'intolérance croissante qui alimente le conflit séparatiste et qui a fait plus de 3000 morts et plus d'un demi-million de déplacés. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, le récit est de Mohamedou Humfa.
Plus de 200 personnes, des femmes pour la plupart, ont marché mardi dans le centre-ville de Yaoundé contre ce qu'ils considèrent comme l'intolérance croissante dans leur pays. Les manifestants ont relevé qu'il y a une intolérance croissante pour les croyances culturelles et religieuses. Parmi ces manifestants, il y avait le secrétaire général du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, Adamou Ngamié.
La communauté musulmane prend chaque instant des efforts, surtout pour suivre les discours de cohésion, les discours religieux de cohésion, pour que ces discours soient partagés à tous ceux qui peuvent aimer, voir comment on peut promouvoir la paix. Parce que sans tolérance, il n'y a pas paix.
En 2020, dans un rapport, le gouvernement camerounais a fait état de problèmes d'intolérance interreligieuse, citant notamment des conflits entre les églises chrétiennes pentecôtistes et les mouvements fondamentalistes musulmans dans l'extrême nord du pays. Le rapport indique que plusieurs affrontements ont fait des victimes, sans donner plus de détails. Les manifestants ont aussi noté que l'intolérance avait augmenté en 2017 lorsque des séparatistes anglophones, se plaignant d'être marginalisés, ont pris les armes contre le gouvernement majoritairement francophone. Annabelle Michou, une étudiante de 22 ans à l'université de Yaoundé, dit avoir manifesté pour dénoncer les discours de haine et la propagande qui font le lit de l'intolérance sur les réseaux sociaux.
Nous appelons tout le monde à nous rejoindre pour construire un Cameroun sans haine, promouvoir la cohésion sociale, la paix. Où que nous nous trouvions, nous avons un rôle collectif à jouer pour faire du Cameroun un pays meilleur. Il existe des moyens alternatifs et non violents pour dire ce que nous pensons et nous pouvons utiliser les bons canaux pour être entendus. Nous devons également nous rappeler que nous n'avons pas d'avenir en détruisant. Nous devons construire en améliorant ce que nous avons.
En juillet dernier, le Cameroun a lancé une campagne contre ce qu'il a appelé la montée des discours de haine en ligne, l'intolérance et les déclarations xénophobes. Les groupes de défense des droits humains souhaitent cependant qu'au-delà des déclarations d'intention, les autorités placent la lutte contre les discours de haine au cœur de leur politique sociale. Le gouvernement n'a fait aucune déclaration pour la Journée internationale de la tolérance cette année, mais dans le passé, il a appelé tous les Camerounais à vivre ensemble, en harmonie. Le conflit séparatiste au Cameroun a fait plus de 3000 morts et plus de 550 000 personnes déplacées, selon les Nations Unies.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, le chef de la junte, qui a refusé l'envoi d'un médiateur de la CEDEAO, a précisé à Conakry que son pays n'est pas en guerre. Dans un entretien télévisé qu'il a accordé à la presse locale, le colonel Mamadi Doumbouya appelle l'institution sous-régionale à respecter le chronogramme de la transition qui sera donné par le Conseil national de la transition. Réaction à Conakry au micro de notre correspondant Zakaria Camara.
Plusieurs questions ont été posées par trois journalistes guinéens au président de la transition en Guinée. Dans cet exercice, le colonel Mamadi Doumbouya a donné quelques précisions. Par exemple, sur le sort de l'ancien président Alpha Condé, le chef de la junte a dit que la justice fera son travail en toute indépendance, un pan de l'entretien qui a fait réagir à Conakry.
Nous avons des bons juges. Moi, je préfère qu'il soit jugé ici.
Si Alpha est coupable, la justice va l'accuser. S'il n'est pas coupable, à ce moment, il sera libre. Un point d'intérêt. Si on le cite ici, ça ne sera pas une bonne chose. Mais plutôt qu'on l'envoie à la haie.
Quand il disait qu'il était Nelson Mandela, qu'il était le Mandela de Guinée et tout, on croyait en lui, mais il nous a complètement trompés, complètement foutus à l'air, et la justice va faire son travail. On peut le juger ici, mais il faut d'abord revoir la justice, parce que notre justice est injuste.
La Guinée est suspendue des instances de la CEDEAO. L'institution sous-régionale a maintenu sa position il y a quelques jours lors d'un sommet extraordinaire sur la Guinée et le Mali. Sur la durée de la transition, le colonel Doumbouya dit laisser cette question au Conseil national de la transition. Une autre réponse commentée par les Guinéens.
Le délai que la CEDEAO a donné, c'est 6 mois, c'est trop court pour une transition, je pense. Au moins, il faut aller au maximum des ans.
La Guinée a un cas particulier. La Guinée n'a pas fait un coup d'état mortel. La situation de la Guinée encombre seulement les Guinéens. Si on trouve moins de faire moins de 2 ans, ça sera bienvenu. Mais si on ne trouve pas ça encore, pour 2 ans, c'est bon. Mais il ne faut pas dépasser ça.
Si mon avis comptait, la Guinée allait quitter la CEDEAO définitivement. Qu'est-ce que la CEDEAO sert à la Guinée? Rien. La CEDEAO n'est pas une communauté économique. C'est une communauté des syndicalistes, des copains, des chefs d'État.
Le futur CNT sera composé de 81 membres, désignés par 19 structures, dont la classe politique, la société civile, les syndicats, le patronat, la presse nationale, entre autres. Seulement 15 sièges sont prévus pour les 181 partis politiques en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Il pensait revenir construire en Burkina Faso nouveau. Envoyé en 1986, étudié à Cuba par le président et père de la révolution burkinabé Thomas Sankara, 600 jeunes de milieux défavorisés seront délaissés à leur retour. L'équivalence des diplômes obtenus à Cuba n'est pas reconnue au Burkina Faso et ces orphelins de Sankara peinent à avoir une insertion professionnelle. Yacouba Ouédraogo.
Stanislas Damiba faisait partie des 600 jeunes issus de milieux défavorisés envoyés étudier à Cuba en septembre 1986 par le président Thomas Sankara. Leur mission, se former pour revenir construire un nouveau Burkina Faso révolutionnaire.
On avait entre 12, 14 et 16 ans. À l'époque, Thomas Sankara, avec l'idéal révolutionnaire, décida de nous envoyer à Cuba pour une formation technique, professionnelle et idéologique. C'est que je voudrais dire qu'on était issus des familles défavorisées, orphelins de surcroît. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on nous appelle actuellement les orphelins de Thomas Sankara.
Arrivé au pouvoir en 1983, Thomas Sankara est un jeune officier de 33 ans, aux idées révolutionnaires qui entend éradiquer la pauvreté de son pays. Il se tourne alors vers Cuba, dirigé par le leader communiste Fidel Castro, un exemple à ses yeux. Stanislas se souvient encore d'un passage du président sur l'île des Caraïbes.
Thomas Sankara arrive à Cuba en 87 et il serre la main de tout un chacun. Les 475 garçons et les 135 filles.
C'était en septembre 1987, un mois après, soit le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné. De 1992 à 1996, la plupart des étudiants rentrent au Burkina Faso espérant être intégrés dans la fonction publique, comme cela leur a été promis par l'État avant le départ pour Cuba. Mais pour la majorité, ce ne sera pas le cas. L'équivalence des diplômes obtenus à Cuba n'est pas reconnue. Aujourd'hui encore, l'association des anciens étudiants formés à Cuba lutte pour qu'elle le soit.
Il y a 3 points que nous attendions. Le dédommagement pour les préjudices subis de 1992 à nos jours, en tenant compte des ayants droit de nos camarades disparus, l'équivalence réelle de nos diplômes, en tenant compte du volume horaire, et voir nos camarades qui sont à la fonction publique pour qu'ils ne soient pas sous-employés.
Aujourd'hui, âgé de 46 ans, Stanislas est technicien supérieur en génie civil dans le secteur privé. Il fait souvent un tour au mémorial Thomas Sankara, créé à Ouagadougou, à l'endroit où le leader burkinabé a été assassiné. Là, il ne manque pas d'occasion d'évoquer avec les visiteurs la situation que vivent les membres de leur association. Les dossiers ont été déposés au Haut Conseil pour la réconciliation, qui a reconnu que l'État a failli et doit dédommager ses orphelins de Sankara, selon Stanislas Damiba. Même si cela se réalisait, ce serait en l'absence de beaucoup d'entre eux.
Aujourd'hui, nous déplorons 85 de nos camarades qui sont décédés, certains par suicide, 245 qui sont à la fonction publique sous-employés, et 460 qui sont effectivement en chômage précaire.
Du procès des assassins présumés de Thomas Sankara qui s'est ouvert début octobre à Ouagadougou, Stanislas dit n'attendre que la vérité sur la mort de leur père spirituel.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebudia et Rosine Munezero, à la mise en onde Lionel Gahima et à la console Jonah Cummins. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.